Bonsoir. Les délégations de Kinshasa et du M23 AFC ont décidé mercredi 24 avril à Doha au Qatar d'une trêve devant conduire à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cet engagement est contenu dans un document conjoint parvenu le même mercredi à Radio Kapi. D'un accord commun, ces deux parties ont ainsi réaffirmé leur attachement à une cessation immédiate des hostilités, rejetant catégoriquement tout discours de haine et d'intimidation. Kinshasa et le M23 ont recommandé aux communautés locales de respecter ces engagements. Ils ont également convenu que leur respect constitue une étape clé vers un dialogue constructif en vue d'un retour durable à la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Selon ce document, ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que sur les modalités concrètes des sorties des conflits dans les territoires de l'Est du pays. Que pensez-vous de ce communiqué conjoint entre le gouvernement congolais et le M23 pour le retour de la paix dans le Deux Kivu? Nous en parlons ce soir avec Passion Bachombe Matabishi. Il est membre de la société civile, coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Monsieur Passion Bachombe, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue également tous les auditeurs de la radio Kapi qui nous suivent à travers le monde.
Également avec nous dans ce débat, Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker. Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Timothée Chaombo-Soucha fait partie aussi du casting de ce soir. Il est spécialiste en politique internationale et coordonnateur et chercheur indépendant à Kiel Afrique. C'est un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Timothée Chaombo-Soucha, bonsoir.
Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook, le compte YouTube et les comptes X de Radio Kapi. Mais à Bounia, dans la province de l'Ituri, vous pouvez nous suivre sur la 104.9. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur VSTV, canal 867. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, dans un communiqué conjoint publié mercredi 23 avril 2025, la RDC et l'Alliance Fleuve Congo ont manifesté la volonté de résoudre le conflit dans l'est du pays par des moyens pacifiques après des pourparlers de paix tenus à Doha au Qatar. Après des discussions franches et constructives, indique le communiqué, les représentants de la RDC et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Les détails avec vous, Papi Martial Mokeba.
À l'issue des discussions qualifiées de franches et constructives, les deux parties se sont engagées à œuvrer en faveur d'une trêve devant conduire à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif, précisent les documents. D'un commun accord, elles affirment leur attachement à une cessation immédiate des hostilités, rejettent catégoriquement tout discours de haine et d'intimidation et appellent les communautés locales à respecter ces engagements. Elles conviennent également que le respect de ces engagements constitue une étape clé vers un dialogue constructif en vue d'un retour durable à la paix en RDC et dans la région. La déclaration précise que ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que sur les modalités concrètes des sorties des conflits dans les territoires de l'Est du pays. En fait, les deux parties s'engagent à respecter immédiatement ces engagements tout au long des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Elles appellent les peuples congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à relayer ces messages d'espoir et de paix. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci Papi Mukeba pour tous ces détails. Patient Bachombe, je rappelle que vous êtes membre de la société civile, coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. D'abord, quelle a été votre réaction à l'annonce de cette trêve convenue à Doha? Est-ce un développement significatif dans la résolution du conflit dans l'est de la RDC?
Merci beaucoup, Madame Kelly. D'abord, je voudrais rappeler que la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, DICODE RDC, en partenariat avec une centaine d'organisations de la société civile, des dynamiques des femmes et des organisations spécialisées sur la question de paix et sécurité, avait mis en place un comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. En fait, la société civile s'exprime sur les questions de sécurité, de paix et aussi les questions humanitaires pour l'instant au travers de ce comité de crise. Et nous, au niveau du comité de crise pour la paix, nous avons pris acte de ce cessez-le-feu, cette trêve qui nous mène vers un cessez-le-feu, mais aussi avec espoir et vigilance à la fois. Parce que avec tout, après toutes les tergiversations, cette attente, nous arrivons quand même à une phase très très décisive. Et donc nous avons salué cet engagement, n'est-ce pas, qui est déjà un pas vers la paix. Et donc, pour nous, ce que nous pouvons exhorter aux partis, c'est de respecter scrupuleusement leurs engagements dans un esprit de responsabilité historique. N'oubliez pas...
Après que... ce communiqué de Doha, vous avez publié, votre organisation a publié un communiqué, vous venez de le dire, vous saluez ces engagements pris à Doha, mais vous insistez sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Absolument, parce que la résolution 2773 a parlé clairement du retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. La résolution qui a été adoptée depuis le 21 février 2025. Et donc, et nous pensons que les partis devraient aussi aller dans le sens de la mise en œuvre et du respect de cette résolution. Vous savez, sur terrain, aujourd'hui, les communautés ou les populations qui vivent dans les deux provinces, et j'allais même ajouter l'Ituri, donc le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, sont exposés à des souffrances incalculables, à une situation vraiment désastreuse. Et donc, pour elles, pour ces populations, un cessez-le-feu peut permettre déjà qu'il y ait un accès, n'est-ce pas, aux aides humanitaires, parce que vous allez vous rappeler que même les humanitaires se sont plaints qu'il n'y avait pas possibilité d'atteindre certaines zones. Et donc, nous pensons que la population qui croupit dans une misère, la population qui ne sait plus à quel sens se vouer, ne peut que saluer aujourd'hui la fin de la guerre, si ce cessez-le-feu va nous y amener. Voilà, tout ce que nous pouvons faire, c'est en fait pour les populations. Et là, nous voulons demander aux partenaires humanitaires de la République démocratique du Congo, notamment les États-Unis, l'Union européenne et les Nations Unies aussi, de voir maintenant rapidement comment ils peuvent profiter de cette trêve pour acheminer les aides humanitaires aux populations qui sont sinistrées, aux populations qui vivent une misère aujourd'hui indescriptible. Donc voilà, nous en tant que population, nous pensons que si les partis, donc le gouvernement et l'AFC M23 tiennent de manière responsable à leurs engagements, nous pouvons arriver à une paix.
Alors vous voulez du concret.
Nous voulons du concret parce que l'une des choses, c'est de s'engager, mais l'autre, c'est de réaliser et d'assurer le suivi, que dis-je, la mise en œuvre de ce à quoi on s'est engagé. Et donc, aujourd'hui, la situation, on doit la regarder vraiment du côté humanitaire. et se dire on s'est fait la guerre et maintenant on doit arrêter de se faire la guerre et aller droit à la paix.
Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker, comment vous avez analysé ou vous analysez ce communiqué conjoint entre le gouvernement congolais et le M23 pour le retour de la paix dans le deux Kivu? Est-ce qu'on peut parler d'un développement significatif?
Je reste très sceptique quant à ce qui concerne les espoirs que pourrait porter ce communiqué. Pour moi, j'ai la peine de qualifier cela déjà d'une résolution. Parce que lorsqu'on regarde un peu comment est-ce que nous en sommes arrivés à ce stade, il est déplorable de constater que les acteurs, ou en tout cas les principales parties à ce conflit, ont d'une certaine façon adopté une posture où on s'engage à des à pareils engagements pour faire belle image à la communauté internationale, mais les planifications sont ailleurs. Il y a de cela 12 jours, le M23 accusait encore l'ancien DRC avec le Wazalendo de mener des incursions sur leur position. La même chose, on en a suivi il y a 2 jours autour de Walika, les FRDC qui dénonçaient des incursions de la part du M23 sur des positions du M23. Et d'autre part aussi, il y a des préoccupations quand même qui restent sans réponse. Parce que...
Lesquelles, par exemple?
À ce stade, tout à fait, à ce stade, si nous pouvons supposer que la bonne foi de la part du gouvernement serait matérielle, qui gère dans les faits les Wazalendo? Comment seront perçus leurs agissements tout au long de ce processus? D'autre part, quand je regarde la formulation même de ces pourparlers, les personnes qui représentent d'une part l'État congolais, d'autre part la rébellion du M23, et quelle légitimité, quel niveau d'accréditation à ce stade-là devrait-on avoir pour des personnes qui se prononcent pour un engagement que l'on pourrait supposer ou duquel on pourrait attendre des retombées positives et qui vont durer. Cela aussi, c'est parce que depuis que ce conflit a commencé, nous avons assisté à plus ou moins à plus d'une demi-douzaine d'engagements à un cessez-le-feu. On a vu à un moment donné une trêve humanitaire qui a été négociée par les États-Unis. Au lendemain, nous avons remarqué que le M23 avait réaménagé son espace, avait même disposé d'un matériel avec un missile sol-air. D'autre part, le M23 récemment, au mois de février ici, avant la prise de la ville de Bukavu, ils avaient eux-mêmes déclaré un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires que... Après 2 jours, ils ont avancé sur Kavumu et pris le contrôle de la ville de Bukavu. Donc ça n'augure aucun espoir dans le sens à dire que un papier signé au Qatar pourrait apporter des solutions durables. Il y a aussi cette question autour des motivations du Qatar dans ce processus que jusqu'à présent on ne sait pas dire avec exactitude s'il s'agit d'un processus à part entière ou on devrait se référer au mécanisme fusionné du processus de Luanda et de Nairobi. Donc, il y a ce flou que, d'une certaine façon, les acteurs engagés principalement dans ce conflit essayent de faire maintenir, et vous avez senti que la réaction de la société civile ne s'est pas fait attendre. Et si du côté de la du code, on peut être rassurant tout en gardant certaines réserves, j'ai vu passer le communiqué de la Lucha qui est plutôt sans appel sur une posture que l'on peut aussi à juste valeur estimer que les pourparlers que nous avons eus dans ce pays depuis San City n'ont fait que consacrer l'impunité et le partage du pouvoir. Donc, d'une certaine façon, je pense qu'il faudrait qu'on soit assez honnête et à ce stade, je pense que le mécanisme fusionné de Luanda et Nairobi, avec les apports et soutiens potentiels du pacte social que présentaient ou proposaient les prélats catholiques et protestants, constituaient quand même des plateformes assez rassurantes dans le sens à nous amener vers une résolution pacifique de cette crise.
Timothée Chaumbo-Soucha, vous êtes spécialiste en politique internationale, coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique. C'est un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Lueur d'espoir après la signature de ce communiqué conjoint, gouvernement congolais et LEM23 AFC.
Et nous pouvons probablement croire qu'il y a, on peut espérer déjà à des pourparlers le plus direct et franc au regard des engagements des uns des autres. Là, devant mes yeux, j'ai le communiqué à 20h dans le site X de la présidence de la République démocratique du Congo, comme quoi, au terme de ses travaux à Doha, le gouvernement congolais décide d'observer une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu. Donc nous sommes dans la première étape d'une trêve qui est une cessation momentanée des hostilités pendant qu'il y a un processus de vers le pourparler, parce qu'il faut dire qu'il y a d'abord la trêve, puis pourparler, puis cessez-le-feu. Ensuite, il y aura un dialogue totalement inclusif et constructif. Ce qu'il faut noter, il y a eu des volontés. Et nous avons toujours dit dans ce pays que la volonté politique manque. Et puis, il y a un esprit de compréhension. Voilà, discussion franche et constructive. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce contexte ici? C'est que l'État congolais se trouve piégé depuis le premier communiqué de Luanda, lorsque le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundo, avait signé l'acte d'engagement du processus de neutralisation et de désengagement des FDLR. C'est pour ça que tous les mots en matière de négociations complexes et de résolution de conflits, tous les mots sont importants. Lorsqu'on vous dit « dialogue », ça, c'est au niveau, et je me rappelle bien, Madame Kelly, j'étais reçue par Radio Okapi, ça fait 2 ans, jour pour jour, que j'interviens en suivant les débats sur ce conflit. Je vous avais dit que dans les rivalités, ce sont les rapports de force qui dictent les rapports entre acteurs sur la scène internationale, régionale, même nationale. Et la RDC, ayant accepté de neutraliser l'FDLR, signifie en d'autres termes que la RDC reconnaît l'activisme, même s'il n'y a pas de preuves tangibles, que ce soit au Rwanda, etc. La RDC s'est liée, s'est tirée une balle au pied pour accepter et signer par l'État congolais, par le deuxième diplomate, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, de neutraliser un plan de désengagement des FDLR. Un deuxième communiqué, cette fois-ci communiqué conjoint, auquel Mme Minoua a été déléguée par le président de la République, SADC et EAC, la RDC était favorable au dialogue. Quand vous voyez la résolution des Nations Unies, la RDC a été recommandée d'aller au dialogue. L'Union européenne est revenue plusieurs fois sur la nécessité d'un dialogue. Quel gâchis, après avoir
de nombreux temps de mort qu'on en arrive là. Mais c'est pas très tard de bien faire. Nous sommes dans un contexte où la RDC a perdu environ 5 à 10% de produit intérieur brut parce que elle ne contrôle plus deux provinces, quasiment 80% de ces deux provinces. Deuxièmement, la RDC se trouve devant cet engagement de FDLR. Troisièmement, la RDC se trouve devant la responsabilité de plus de 6 millions de populations en errance. C'est une responsabilité partagée avec le M23. 6 millions, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire la moitié de la Belgique. Ça veut dire le Congo-Brazzaville. C'est la population en déplacement interne. Donc, et tout ça, ça n'échappe pas à la communauté internationale. De l'autre côté, l'ACM23 se trouve devant une situation de sanctions et de la dénonciation de l'ensemble de la communauté internationale, même si l'ONU n'a pas pris des sanctions. Mais certains États, ont particulièrement les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, ont pris des sanctions. Ils ont arrêté, suspendu leur aide. Et puis, il y a des personnalités sanctionnées. Avec sommation de retirer, même s'il n'y a pas un mécanisme d'accompagnement, sommation de retirer au Rwanda, donc de retirer des troupes de la RDC. Et donc le Rwanda devient discret. Et donc, dit au M23, allez-y négocier parce que je suis en situation difficile. Alors, vous m'avez posé la question il y a 9 mois, est-ce qu'on va discuter directement avec le Rwanda et avec le M23? J'ai dit que le dialogue se situera à 2 étages. Le premier étage, il faut un mécanisme, et c'est ce qui a manqué dans ce communiqué de Doha. Il n'y a pas un accompagnement d'organismes internationaux, par exemple les Nations Unies, ou le programme des Nations Unies pour le développement, ou l'USCQ, ou l'Union Européenne, etc. Il n'y a pas une, ou l'Union Africaine, voulais-je dire. Donc, il n'y a pas un mécanisme d'accompagnement, parce qu'il faut qu'il y ait ce mécanisme pour voir comment, et ça va se définir lors de dialogue et de pourparler, que l'on puisse voir les troupes du Rwanda qui quittent pour que nous puissions rester avec la question congolo-congolaise du dialogue inclusif. Je vous ai dit qu'on ne peut pas laisser des challengers du président tel que Moïse Katumbi en dehors du pays pour chasser, l'ancien président pour chasser, d'autres opposants. On a parlé des intimidations, on a parlé de bonne foi, on a parlé des engagements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des perquisitions pour rien, on ne peut pas avoir tous les opposants qui sont tout le temps brimés, on les met en prison, on les sort, on cherche des infractions après.
Alors,
tout ça.
Timothée Chambon, on retient que vous, pour vous, c'est déjà un pas vers la sortie des crises. Il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Capi. Charles Poudika qui nous suit depuis Luena dans la province du Olomami. Et nous a dit ceci, le fait que ce communiqué soit signé par les non-officiels, surtout du côté gouvernement, nous pousse à émettre un doute sur une issue positive de ces pourparlers. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, madame, désolé, mon micro passe.
Oui, ça passe, on vous suit.
Oui. Oui, oui, il y a de craintes, parce que nous avons vu par le passé comment, parfois, des engagements sont pris, mais qu'on ne respecte pas. Moi, je crois que l'État congolais a mandaté des gens, et quand c'est repris dans les comptes officiels X de la présidence de la République, il faut prendre ça avec sérieux, et nous ne devons pas remettre en cause toutes les choses. Le président de la République, le gouvernement, ont le pouvoir discrétionnaire et la capacité de déléguer qu'ils veulent à partir du moment où le président de la République délègue des gens à travers ses services, ces gens prennent les qualités officielles et leurs fonctions de plein statut. Ce qu'il faut avoir la crainte ici, c'est les deux parties. Est-ce qu'ils vont tenir? Mais attention, vous savez pourquoi est-ce que à Doha, les deux parties n'ont pas signé directement sur la même feuille de papier le communiqué, parce qu'il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions et cela suppose on leur a mis devant leurs responsabilités pour dire chaque parti signe ses engagements et vous ramenez dans vos structures d'origine. Le M23-AFC va devoir observer immédiatement le cessez-le-feu, le gouvernement congolais compris. J'aimerais en une seconde répondre à mon co-débatteur, pas répondre, mais attirer son attention quand il pose la question, le statut de Doha. Attention, le Qatar est un acteur géopolitique important, tant sous la sous-région du Proche-Orient qu'au niveau des institutions internationales sur le plan financier, mais aussi de son rapprochement avec les États-Unis. Et que dernièrement, lors du passage du représentant du président Trump à Kinshasa, il a été soufflé du conflit, comme quoi les États-Unis pouvaient intervenir, mais la réponse aurait été de dire non, il y a un processus en cours avec le Qatar, etc. Les États-Unis restent attentifs pour ce processus. En d'autres termes, faisons une chose à la fois, faites ce que vous tentez de faire, nous suivons. Le Qatar est un allié important des États-Unis, il ne faut pas l'oublier.
Alors, on va prendre ces auditeurs qui appellent, ces quelques auditeurs, hein. On va pas les prendre tous, ils sont très nombreux, on va en prendre quelques-uns qui appellent pour donner leurs avis sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour écouter cet auditeur qui appelle.
Pierron Pagnan, depuis la ville de Lubumbashi, quand on sait que l'opposition non armée ne sera pas concernée dans ce processus. D'autres groupes armés ne sont pas dans ce processus. Analysant ces communiqués conjoints, plusieurs questions taraudent nos esprits. 1. Signant ces communiqués, le gouvernement n'a-t-il pas accepté directement la reconnaissance politique du M23-AFC? Deuxième question. Quel sera le sort du gouvernement de l'Union nationale en gestation alors que le dialogue direct entre les M23 et le gouvernement n'a pas encore commencé? Pour chuter, si les M23 ont amené l'AFC, pourquoi du côté du gouvernement les Wazalondo sont écartés?
Alors, Pascal Bachombe, vous avez suivi cet auditeur de Lubumbashi qui se pose beaucoup de questions après la signature de ce communiqué conjoint. Le gouvernement a-t-il accepté directement la reconnaissance politique du M23?
Écoutez, c'est pas aujourd'hui qu'il y a eu des discussions avec l'M23. Rappelez-vous que nous étions déjà à Nairobi avec tous les groupes armés, notamment les M23. Et donc, c'est un groupe rebelle, hein? C'est un groupe rebelle. Maintenant, on est dans une phase, si je comprends bien la dynamique, on est dans une phase de recherche de la paix. Donc, pour moi, je voudrais quand même qu'on puisse regarder les choses de manière réaliste, après tout ce que nous avons connu comme trahison au sein de l'armée, où on a vu des militaires quitter le sud Kivu, le nord Kivu, et fuir, même lorsque l'ennemi n'était pas encore là. Et donc, il y a eu beaucoup de trahisons. Et aujourd'hui, il y a, je dirais, deux grands fronts qui ont émergé, c'est-à-dire, il y a le front diplomatique et le front politique. Et donc, je crois que à ce stade, il faut donner chance à ces pourparlers. Et vous allez aussi vous rappeler qu'au niveau de la région, ça n'a pas été facile. Déjà, un de mes co-débatteurs venait d'évoquer la question du processus de Dar es Salaam avec la session ou le sommet conjoint SADC et AC. Et vous savez tout ce que nous avons comme critique que nous émettons sur l'East African Community. Et donc, moi, je pense que la première étape, c'est de pouvoir discuter avec le Rwanda d'un côté et l'AFC M23 de l'autre côté. Alors, s'agissant de la légitimation, moi, je crois que dès lors que on est déjà d'accord de discuter pour parler des causes profondes du conflit, allons droit au but. Alors, s'agissant de l'opposition armée, écoutez,
non armée.
L'opposition non armée, je crois qu'ici, on parle d'abord de groupes rebelles avec qui on discute. Maintenant, s'il y aura une deuxième phase, au niveau interne pour des discussions. Je crois que récemment, le chef de l'État a lancé des consultations nationales, des consultations où il a mandaté son conseiller spécial pour rencontrer les différentes parties prenantes, notamment l'opposition non armée. Et donc, il y a déjà un processus au niveau interne.
Mais l'opposition n'était presque pas...
Mais évidemment, vous avez raison. Mais je ne sais pas si les consultations ont pris fin, mais je crois que
les consultations
continue officiellement. Mais je m'imagine que s'ils ne sont pas venus, mais on doit continuer à l'étendre, autant on discute avec l'opposition, je dirais, armée, mais on doit aussi continuer à discuter avec... Et cette main tendue, je crois que l'occasion est arrivée pour pouvoir, n'est-ce pas, la saisir. Alors, quel sera le sort de ce gouvernement en gestation? C'est ce qu'il a posé
comme question. Le gouvernement d'Union nationale,
c'est lié, en fait.
Que nous attendons.
Tout à fait, c'est lié. Et je crois que si ces consultations au niveau interne, au niveau international, donc au niveau avec le M23 et l'AFC, je crois que il faut donner chance d'abord à la paix. Et c'est ce qui est plus prioritaire que de voir discuter pour partager le gâteau, partager le pouvoir. Pour nous...
Avec le M23, ça ne sera pas le cas.
Écoutez, pour nous
selon
d'abord...
Selon vous, société civile, vous pensez qu'il n'y aura pas partage des postes?
Madame, pour nous, la société civile, nous avons un cahier des charges que nous allons présenter lors d'un prochain dialogue. Parce que là, les discussions, il y en a, et nous encourageons qu'on arrive jusqu'à ce cessez-le-feu et qu'on se retrouve autour d'une table pour parler Congo, pour parler de la paix. Voilà, c'est ce qui est très important, parce que toutes ces victimes au niveau de la région, au niveau du Nord-Sud, Kivu, Ituri et j'en passe, ils se posent des sérieuses questions, par exemple sur la justice transitionnelle, sur, par exemple, les sorts des victimes. Hein? Voilà, il y a des questions sur tous ces pillages des minéraux aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut, il y a des questions qu'il faut laisser d'abord au frigo, mais on prend ce qui est prioritaire et lorsqu'on va, parce que le moment va arriver, et pour l'instant, nous voulons voir la bonne foi des uns et des autres pour arriver à la paix.
Don Divin Chokiano, qui nous suit depuis le sud Kivu, depuis Bukavu sud Kivu, je crois que c'est une distraction pure et simple. Les amis de l'AFC ne font que renforcer leur position. Aujourd'hui même, la journée, plusieurs militaires ont saisi des camions des particuliers pour faire arriver, pour les faire arriver à Nyangezi, territoire de Walungu, dans la province du sud Kivu. C'est une réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu. On va prendre le deuxième auditeur qui est ici avec nous à Kinshasa. On va l'écouter, puis on revient dans ce studio pour la suite de l'émission.
Niker Tokolo, depuis la ville province de Kinshasa. Les communiqués conjoints signés par le gouvernement congolais et l'AFC M23 en négociation directe à Doha est un signal très fort exprimant la bonne volonté politique de ces deux parties à œuvrer ensemble pour une solution durable à l'actuelle crise au pays. Cependant, il y a encore des doutes qui caractérisent leur position. C'est quand même incohérent de voir le gouvernement congolais négocier avec le mouvement rebelle AFC M23 pour garantir la paix et la cohésion nationale dans les pays et au même moment prendre des mesures braconnières contre ceux qu'il qualifie de présumés collaborateurs de ce même mouvement rebelle. Ici, je cite le corps Kabila qui fait face à plusieurs décisions fermes du gouvernement congolais. Cette attitude sème une grosse confusion au sein de la mémoire collective et aurait un impact négatif sur ce processus si sa pression n'est pas atténuée.
Alors, Monsieur Henri Pacifique Mayala, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de Niker Tokolo?
Alors, je pense que M. Tokolo a tout à fait raison. Et le questionnement qui émerge, en plus de ce qu'il vient de soulever, c'est la place que nous accordons à notre mémoire collective. Et je pense qu'il faudrait toujours revenir et essayer de puiser des leçons dans nos expériences passées. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à ce stade? On a un gouvernement en place pour lequel on pourrait dédouaner pour le premier mandat. On pourrait dire que ça a été un moment de familiarisation avec les dossiers sensibles. Et je me souviens qu'on avait encore décortiqué ici les programmes électoraux qu'ont présenté les différents candidats. Et pour moi, le volet sécuritaire du programme électoral du président Félix Tshisekedi, c'était un diagnostic parfait de notre secteur de la sécurité, mais que nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui, ça pose de sérieux problèmes. Donc, nous continuons avec ce tâtonnement où on estime qu'un ancien président qui reste aussi tout de même responsable et redevable de certaines dynamiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui ne pourrait avoir aucun rôle dans la résolution de ce conflit, c'est problématique. Que l'on ait un ancien président d'une institution d'appui à la démocratie qui se retrouve publiquement à la tête d'une rébellion, lequel a aussi disposé à un moment donné d'un parti politique à la contre duquel le gouvernement ne s'est jamais prononcé, mais que du jour au lendemain, sur base, en tout cas, je le dis avec beaucoup de réserve, des rumeurs, on en arrive à restreindre davantage l'espace politique et civique d'autres citoyens congolais qui, par ailleurs, devraient ou pouvaient aussi contribuer à l'avènement ou à la réflexion aux solutions potentielles à cette crise. Madame, ça frustre. On ne peut pas au même moment vouloir faire prévaloir l'avènement d'un état de droit et restreindre l'espace civique. Donc pour moi, je pense que je suis d'accord avec notre compatriote. Ces engagements, on les a vus au plus haut niveau politique de ce pays, où les engagements ont été pris et que le lendemain, les gens se sont dédiés. Donc pour moi, je continue à plaider pour que on avance dans ce sens à pouvoir accorder la chance à l'avènement de la paix à travers les solutions internes. Oui, le Qatar est en train de se distinguer par ses prouesses en termes de médiation, mais on ne doit pas perdre de vue que c'est des initiatives intéressées et purement orientées par les retombées économiques. Au Rwanda, il y a un grand aéroport à Bouséguéra que le Qatar est en train de construire. Au sud Kivu, il y a un investissement dans l'exploitation de l'or local qui roule avec l'argent qatari. Et dire que les Qataris vont nous accorder une solution durable à cette crise, je trouve cela vraiment, d'une certaine façon, naïf. Merci. On ne devrait pas courir de midi à 14h. Nous avons des solutions à l'interne qu'il faudrait exploiter. Les gouvernements d'Union nationale ne résolvent jamais les crises sécuritaires.
Alors,
il faut aller directement vers ce dialogue
et trouver la solution. Vous faites allusion à quoi lorsque vous parlez des solutions à l'interne?
Madame Kelly, je continue de croire que le pacte social que continue de proposer les évêques qui pourraient ramener autour de la table toutes les tendances dont l'opposition non armée, la position armée et le gouvernement afin de mettre sur la table les cahiers des charges des uns et des autres et avancer dans la direction à pouvoir adresser les causes supposées être profondes des uns et des autres, constitue plus de chances que de continuer à tourner en rond et espérer que la réponse va nous venir de l'Union européenne, les États-Unis ou du Qatar.
Merci Henri Pacifique. Bertrand Molindois, voilà un internaute qui nous écrit sur la page Facebook de Radio Capi. Notre frère Passion Bachombe parle de la souffrance que traverse la population des zones occupées. Malheureusement, ceux qui dialoguent semblent ne pas prendre en compte cet aspect des choses, car ils traînent à trouver des solutions concrètes. La vie est devenue intenable, qu'il plaise au gouvernement de Kinshasa d'accélérer ce processus afin d'alléger la souffrance de la population meurtrie. François officiel, pour lui, on ignore si cette paix sera éphémère ou définitive parce qu'on ignore le contenu des accords entre le gouvernement et le M23. Direction Kisangani pour cet autre auditeur.
Parti de Kisangani, M. Blaise Saïd, bien que le cessez-le-feu offre une lueur d'espoir pour la paix en République démocratique du Congo. Néanmoins, la réussite de ce cessez-le-feu dépendra de la volonté des partis à respecter leur engagement et la capacité de la communauté internationale à soutenir efficacement ces processus de paix. Quelles garanties existent pour assurer les respect durable de ces cessez-le-feu? Ces cessez-le-feu ouvre-t-il la voie à un véritable processus de paix ou n'est-il qu'un simple répit tactique?
Timothée Tchaombo, les deux parties ont signé un communiqué conjoint, ont pris des engagements. La grande question aujourd'hui, comment concrétiser ces engagements sur les terrains?
Oui, je voudrais rappeler d'abord, tout en donnant raison au questionnement de notre compatriote de Kisangani Glaise, parce qu'on a vu une volonté exprimée, engagement réitéré de part et d'autre, mais comme je l'avais souligné dans ma première intervention, nous ne trouvons pas dans ce communiqué les différents communiqués qui sont identiques, hein, responsabilisés à chaque partie, n'ont pas trouvé le jus puniendis, comme on dit en latin, la force de contrainte. Parce que même si nous revenons, mon débatteur parle des solutions à l'interne, nous saluons d'ailleurs, hein, à la fois l'initiative du président qui a court-circuité un petit peu le pacte de paix initié par les prêtres, mais il en a droit comme garant de la nation. Voilà. Les églises SST, SENCO ont pris l'initiative. Mais il faut savoir que ces structures, notamment les églises de temps de réveil que traditionnelles, n'ont pas la force de contrainte. Et donc, il faut recourir aux institutions régionales, sous-régionales, régionales et même internationales. Je ne me rappelle pas un seul processus en RDC, même la Conférence nationale souveraine, qui n'a pas été accompagnée par des structures internationales. Pourquoi? Parce que nous appartenons tous à ces structures, notamment de l'Union africaine, de la CIRGL, de l'EAC, et nous avons des partenaires internationaux en termes de bilatéral entre la RDC, les États-Unis, la Belgique, le Canada, voilà, la France, le Qatar. Mon co-débatteur parle du Qatar, mais oui, le Qatar investit au Rwanda, le Qatar investit en République démocratique du Congo. Et si nous intervenons ici, généralement sur Radio Capi, c'est dans le volet aussi de notre petite expertise en coopération. Tout fonctionne en termes d'intérêt, et quand la coopération ne marche pas, vient le conflit, et le conflit engendre plusieurs crises. Donc même le Qatar qui vient a un intérêt, les États-Unis sont en coopération avec la RDC actuellement, mais les États-Unis sont le premier soutien du Rwanda, et qui vend les armes au Rwanda, et qui apporte beaucoup d'aide au Rwanda, et dont les structures anglo-saxonnes et même canadiennes, les multinationales, sont derrière et installent leur comptoir à Kigali. Donc, c'est naïf de penser que nous fonctionnons dans un monde de bonne volonté, et dans les rapports internationaux, en géopolitique comme en géostratégie, c'est pas de la démocratie, c'est pas de la moralité. C'est le plus fort reste, et ces rivalités, c'est les rapports de force. Donc, ce que nous pouvons suggérer, par quelle Afrique dont je porte la parole aujourd'hui, c'est de prendre ce communiqué et déposer sur la table du nouveau médiateur de l'Union africaine, le président togolais, Fornia Simbe, l'amener aussi aux Nations Unies, afin qu'il y ait un accompagnement afin d'observer, parce que les Nations Unies sont en République démocratique du Congo, que Mme Keïta, avec son bureau, ait ses documents et se propose d'ailleurs, parce qu'il y a une résolution qui a été prise à l'ONU, qui reprend les mêmes propos, en quelque sorte, de créer un cadre de concertation en République démocratique du Congo. Et nous avons proposé que ce cadre soit
à deux volets. Premier étage, à la fois déclencher le processus de neutralisation de FDLR, et c'est la RDC qui a accepté cela, doit le prouver, qui est le mécanisme de contrôle, et qu'en même temps, sur le plan régional, qu'on puisse voir les troupes du Rwanda se retirer. La même période, nous connaîtrons à ce moment-là la convocation, à la fois par les Nations Unies, ensemble avec les facilitateurs communs, qu'est le Qatar, d'un endroit, d'un lieu où se déroulera le dialogue inclusif entre Congolais. Le Rwanda ne sera plus, parce que la RDC aura rempli une partie de ses engagements, et le Rwanda aura rempli une partie de ses engagements. Là, nous reviendrons avec le pacte social de nos pères d'église, avec les résolutions des consultations du chef de l'État, avec ce que les églises de réveil sont en train de faire, avec nos petites structures d'experts, et que mon co-débatteur en parlait, pour que nous puissions apporter, lors du dialogue inclusif entre Congolais, étudier les causes profondes et en proposer des solutions.
Mais le dialogue qui va se tenir avec le M23, c'est pas un dialogue entre Congolais, c'est pas un dialogue inclusif.
Le dialogue, je parlais du rapport de force. Aujourd'hui, vous voyez, même le débat sur le changement ou la révision de la Constitution s'est stoppé parce que l'opposition politique, c'est pas elle qui a agi. Il y a un mouvement politique qui a frappé plus fort et qui a changé la donne sur le terrain et qui a plié le gouvernement congolais à venir aux négociations. Donc, si vous regardez bien, certains communiqués de l'opposition qui ne se sont pas retrouvés dans les consultations du chef de l'État correspondent un petit peu avec cette revendication du M23. C'est pour ça que ce dialogue, de mon point de vue, doit être totalement exclusif et un dialogue qui ne pose pas énormément de conditions d'exclusion. Donc oui, le M23 est le mouvement le plus féroce, le plus actif, le plus militant sur le terrain, qui a renversé la donne, donc elle prend le lead. Mais en même temps, il faut savoir que l'opposition politique et non armée conteste la légitimité des institutions. Les élections sont passées 7 jours d'affilée en violation de toutes les lois du pays. Nous ne pouvons pas avoir un ancien président en errance à travers le monde, des opposants en errance, il y en a qui meurent, il y en a qui sont brimés. Tout ça, opposition non armée, opposition armée, il faut soulever aussi d'autres mouvements militaires qui ne s'expriment pas, qui ne sont pas retrouvés à Doha, doivent venir à la table de négociation, effectivement. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'expriment pas, ils n'ont pas de voix aux médias, qu'ils doivent être exclus. Ces groupes armés aussi doivent venir pour qu'une fois pour toutes, nous puissions taire les armes.
Alors, Pasteur Mbachombe, quels sont, selon votre expertise, les principaux défis à surmonter ou à relever pour que cette trêve se transforme en un cessez-le-feu véritable et durable dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu?
D'abord, je voudrais répondre à mon co-débatteur qui a estimé qu'il y avait un manque de cadre d'accompagnement de ce processus de Doha, soit par l'Union africaine ou de regroupements régionaux. Mais moi, je voudrais rappeler que déjà, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, n'est-ce pas, Maxime Prévost, a fait une déclaration immédiatement après ce communiqué du gouvernement et même de l'AFC M23. Et donc, ils ont salué. Et donc, déjà, c'est
saluer
c'est...
ne signifie pas accompagner.
Ben, écoutez, sûr, déjà, le salut, ils ont salué en disant que c'est un pas vers la paix. Et je crois que c'est déjà un engagement d'accompagnement. Donc, ce que nous pensons, c'est que déjà, par rapport à d'autres dynamiques, des processus qui ont précédé Doha, il y a aucun processus qui nous a quand même fait avancer. Nous avons été à Dar es Salaam, nous avons été à Nairobi, nous avons été un peu partout, même en Angola. En Angola, il n'y a pas eu de processus, mais je trouve quand même que quelque part, l'émir du Qatar s'impose. Et donc, ce que nous voulons, nous, le Congolais, c'est le concret, en fait. Et c'est ce qui est en train... Nous ne sommes pas naïfs, évidemment, parce qu'il y a des questions profonde, il y a des vraies questions, des vrais débats, et c'est ce que nous voulons arriver à regarder en face. Et donc,
les défis.
Et donc, il y a, il y a, en ce qui concerne les défis, je crois, mon prédécesseur venait de les dire, c'est aussi comment les communautés, n'est-ce pas, qui vivent ces calvaires, comment elles vont recevoir, n'est-ce pas, ce dialogue, comment elles vont aussi participer, n'est-ce pas, pour exprimer leur desiderata au travers de ces dialogues, pour que les résolutions qui seront prises à l'issue de ces dialogues ne soient pas contestées à la base. Donc c'est tout ça, parce que ce que nous voulons finalement, c'est que cette fois-là, ça soit un dialogue définitif. Cette fois-ci, qu'il ne soit pas encore après 5 ans, 10 ans, il y a encore des conflits qui vont nous ramener des millions de morts dans notre pays. Ça, je crois qu'il faut cette fois-ci aller dans les causes profondes et résoudre une fois pour toutes.
Vous allez conclure, hein, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, donc je crois que la bonne foi, c'est aussi un défi. Aujourd'hui, on veut voir la bonne foi. Et pour moi, la bonne foi aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que l'aéroport de Bukavu, l'aéroport de Goma, pourrait être réouvert pour permettre qu'il y ait acheminement, par exemple, des aides humanitaires. Et je crois que ça va permettre à ce que chacun observe. C'est vrai, il y a toujours rapport de force, mais... chaque parti doit assumer ses engagements. Et je pense que l'occasion est donnée à toutes les parties prenantes d'associer aussi la société civile et les communautés à la base. Et donc ici, l'occasion de demander au gouvernement et même à la facilitation de pouvoir le faire. En dernier lieu, je voudrais évoquer, parce que quelqu'un l'a parlé, cette multitude de dynamiques de paix. Et moi, je voudrais dire que la paix, c'est une construction. Et donc, quand on construit la paix, on se comporte comme un architecte et on prend toutes les initiatives. Et à la personne qui construit de savoir où est-ce qu'elle peut placer tel matériau et tel autre matériau. Et donc, que ce soit à l'initiative de l'ECC5O, qu'on appelle PART, il ne faut pas dire que ça devait être... et même lorsque l'ECC5O a proposé, n'a pas dit que c'est l'unique qui doit porter la paix. Pas du tout. Donc, il appartient à ceux qui dirigent, à ceux qui discutent, de savoir à quel niveau ils peuvent placer telle initiative ou telle autre. Que ce soit Luanda, déjà qui vous avez appris qu'on a un nouveau médiateur, voyez-vous. Donc, voilà ce que nous pensons.
Merci.
Il faut maximiser les chances pour que la population puisse souffler les calumets de la paix.
Merci, Pascal Bachombe, membre de la société civile et coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu Security Tracker. Quelles mesures concrètes pourraient être mises en place pour assurer le respect des engagements pris par Kinshasa et par le M23?
Je pense qu'il faudrait premièrement commencer par éviter de continuer à nous perdre dans multiples engagements et quêtes de solutions internes, externes. À ce stade, je pense qu'on a atteint le niveau où on ne devrait plus continuer dans les manigances politiciennes. Certes, pour le président Félix Tshisekedi, c'est assez sensible, mais c'est le moment où il faut ramener tous les acteurs autour de la table et réfléchir en fonction de la chance à accorder à la paix. Vouloir privilégier, après avoir refusé pendant longtemps toute négociation avec la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, vouloir le privilégier en excluant une frange des acteurs politiques dont l'opposition non armée ne va nous ramener qu'au même point de départ. Demain, après-demain, on va avoir une nouvelle rébellion qui va se déclarer ailleurs et ça sera encore le même cercle vicieux. Et je le réitère encore, le cadre idéal qui propose de façon désintéressée, sans calcul politique, comme on l'a observé dans les différents processus qui ont précédé, tout en ayant un certain actif, c'est ce pacte que proposent les évêques de la Centro et l'ECC, et je pense que ça pourrait être une chance pour la paix, afin que nos populations puissent recouvrir ce semblant de la stabilité.
Timothée Tcharumbro, parlons des défis, hein, certains observateurs ou analystes pensent que il y a de nombreux défis hein, à relever pour la mise en œuvre des engagements pris à Doha par le gouvernement et le M23. Il y a par exemple le défi de la présence d'acteurs armée non signataire, notamment les Wazalendo actifs dans certaines zones du nord et sud Kivu. Leur position vis-à-vis de la déclaration demeure floue et toute action hostile de leur part pourrait compromettre les efforts en cours.
Non, les Wazalendo sont des supplétifs de l'armée nationale, que ce soit le président de la République qui en est commandant suprême, le premier ministre, chef du gouvernement et tous les dirigeants de la RDC, se sont toujours exprimés assez clairement sur cette question. Donc, les Wazalendo appartiennent à la RDC et la RDC doit les inclure comme par une entité qui relève du gouvernement congolais. Je comprends les craintes des compatriotes, même des collaborateurs, hein, parce que nous avons vécu 30 ans d'une histoire, même plus, hein, des histoires, des dialogues, des conférences, on tourne toujours autour du pot, et que beaucoup de réticences. Mais ma seule proposition est celle de que l'Afrique, c'est de qu'il y ait la création d'un comité ou international d'accompagnement de ces pourparlers, notamment en composé de l'Union africaine et les Nations unies. De sorte que ce soit les prêtres, je veux dire l'ECC et l'Église catholique, que ce soit les conclusions de consultation du chef de l'État, que ce soit des experts indépendants, société civile et les autres, nous puissions verser nos conclusions pour qu'il y ait, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a du financement même de ces grands dialogues, donc il faut que la communauté internationale s'impose parce que c'est elle qui a la force de contrainte. L'ECC n'a pas la force de contrainte, les opposants non armés n'ont pas la force de contrainte, c'est la communauté internationale, ce que j'attends la communauté internationale ici, c'est les Nations Unies, à travers les conseils de sécurité, c'est l'Union africaine, même si l'Union africaine, on connaît comment elle fonctionne. Donc il faudrait officialiser et même prendre en charge les communiqués de Doha comme la base du départ. Sinon, nous allons tourner à rond avec des verbiages. Et si nous avons une entité composé, comme le CIAT, vous vous rappelez, Comité international d'accompagnement de la transition, ça viendra après le dialogue, mais pour accompagner, encourager le premier consensus de Doha, il faut que les Nations Unies puissent endosser cela, et aussi avec l'Union africaine.
Merci Timothée Tchaombo, dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Guy Maté, Étienne Lissoumbou et Bertin Kassiama qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Martin Seboujangouela supervisé, la mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsiala derrière les caméras, Jonathan Fanani, Hervé Voka et Clément Chimanga. Présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver les temps forts de cette émission sur les comptes officiels Instagram et TikTok de Radio Okapi. N'hésitez pas d'aimer, de partager, mais surtout de vous abonner. Restez branchés sur la fréquence de la paix.